Bonjour chacun. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, je me permets juste une petite parenthèse personnelle. Beaucoup le savaient déjà, mais on voulait quand même le dire un petit peu officiellement pour que ce soit su de chacun. On attend un troisième enfant, voilà. Donc c'est officiel. Voilà. On est dans une société qu'on qualifie souvent de post-chrétienne. Je ne sais pas si vous avez lu des bouquins ou des articles qui emploient ce terme. Je pense que c'est assez à la mode. On dit, voilà, on est dans une société post-chrétienne et beaucoup de gens dans notre culture avancent ce terme-là pour dire, voilà, on s'est enfin débarrassé du christianisme, cette vision chrétienne du monde, elle est derrière nous et on peut aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de meilleur. Mais en fait, on est juste en train de troquer une vision chrétienne du monde contre une autre vision du monde. Une vision, en fait, religieuse, elle aussi. Et on a inventé plein de nouvelles religions, même si on ne les appelle pas religions, parce que ça ne fait pas politiquement correct de parler de religion. On préfère parler de philosophie ou d'idéologie ou que sais-je, mais on est dans une société matérialiste où en fait tout peut s'expliquer d'un point de vue matériel. On est dans une société humaniste, ça c'est aussi une des grandes idéologies en vogue, hein, où l'être humain est vraiment le fondement, c'est l'être humain qui apporte le caractère sacré de notre société. On est dans une société relativiste. Ça veut dire que tout peut être remis en question. La notion même de vérité tient plus. Alors essayez de dire à un juge que la vérité est multiple, je pense qu'il ne va pas forcément être d'accord avec vous, mais le commun des mortels dans notre société pense que souvent on tend à penser que finalement la vérité est multiple. Il n'y a pas une chose qui s'est passée, mais les choses qui se sont passées dépendent du point de vue, dépendent de la manière dont c'est vécu, dépendent de la personne qui perçoit, qui vit ces événements. On est dans une société athéiste, on essaie d'éliminer toute notion de Dieu dans notre culture, etc., etc. On pourrait rajouter plein de mots en « ist » ou en « isme » si on prend le nom au lieu de l'adjectif. Mais voilà, on est dans cette société post-chrétienne. Et bizarrement, dans cette société post-chrétienne, il y a quand même un certain nombre de sujets qui font le buzz, de sujets, on va dire, de connotations chrétiennes ou de connotations bibliques. Tous les livres, les romans, hein, qui sortent et qui parlent des secrets du Vatican, par exemple, ça fait souvent le buzz. Hein. Il y a eu plusieurs romans récemment et les gens sont hyper attentifs à ce genre d'argumentaire, à ce genre de choses. Si vous organisez une conférence, par exemple, sur comment on voit l'occultisme d'un point de vue biblique, probablement beaucoup de gens vont venir. C'est des sujets qui attirent les gens. Si vous parlez de la vie après la mort, de l'au-delà, là aussi, on va tout de suite trouver une oreille attentive. Des gens qui se disent, mais oui, qu'est-ce que la Bible dit de la vie après la mort, de l'au-delà? C'est sur cette question-là qu'on va s'arrêter un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous dit de la vie après la mort? Qu'est-ce que la Bible nous dit de l'au-delà? On va lire tout de suite un texte. C'est marqué là, hein, donc il n'y a pas de mystère. C'est une parabole que Jésus a dite, la parabole de l'homme riche et de Lazare. Le titre que j'ai choisi pour cette prédication, ce n'est pas ça. J'ai noté ça ici pour que vous puissiez repérer un peu de quoi on va parler. Mais en fait, le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est le suivant. Hein. L'enfer, c'est l'enfer. Et seule la foi nous permet de l'éviter. C'est un peu un jeu de mots, mais c'est vrai qu'en français, on dit souvent l'enfer pour parler de quelque chose de difficile. Mais c'est la réalité. On va le voir. L'enfer, c'est l'enfer. Et seule la foi nous permet de l'éviter. On est dans une série, ici à l'église de la Servette, où on parle un petit peu des paraboles de Jésus. Les paraboles, c'est des petites histoires que Jésus raconte pour illustrer, pour permettre à ses auditeurs de comprendre de grandes vérités, de profondes vérités spirituelles. Dans cette histoire qu'on va lire dans une minute, il y a quelques petites particularités. C'est une parabole qui sort un petit peu de l'ordinaire pour deux raisons. Premièrement, parce que le cadre, le lieu où cette parabole se déroule, une bonne partie de la parabole se déroule dans l'au-delà. Et en fait, c'est la seule. Il n'y a pas d'autre parabole de Jésus qui se déroule dans l'au-delà. Mais c'est utile, c'est précieux. Ouais, les enfants font un concours de cris, là, je pense. Donc, ne soyez pas surpris. Hein. Mais c'est vraiment précieux parce que là, tout à coup, le voile s'ouvre. Jésus nous montre un petit peu sa connaissance de l'au-delà. Lui qui est probablement le seul à savoir de quoi il parle, il nous montre quelques éléments par rapport à l'au-delà. La deuxième particularité de cette parabole, c'est qu'il y a un prénom. L'un des personnages est nommé Lazare. Et c'est la seule parabole de Jésus où un personnage est nommé. Du coup, ça a poussé les théologiens à se poser la question, est-ce que vraiment il s'agit d'une parabole? Ou est-ce qu'il s'agit en fait d'une histoire réelle? Est-ce qu'il s'agit d'un récit historique? Alors, je plaide pour l'idée que c'est vraiment bel et bien une parabole, et vous allez voir tout au long, je vais vous donner trois arguments pour, à mon avis, pour asseoir, pour prouver l'idée que c'est bel et bien une parabole. Mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, les choses ne changent pas énormément. Si c'est une parabole, cette vision que Jésus a, cette compréhension, cette connaissance que Jésus a de l'au-delà n'en est pas moins réelle. Seulement, si c'est une parabole, alors notre manière d'aborder le texte est un petit peu différente parce qu'on va chercher quelle est cette grande vérité que Jésus veut nous montrer par cette histoire, par cette parabole. Je vais vous lire le texte, donc ça se trouve dans l'évangile de Luc. Si vous avez une Bible, vous pouvez le chercher. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, je vais afficher le texte. Si ça s'affiche, ça vient, voilà. Et peut-être vous n'arrivez pas à lire parce que vous êtes trop loin. Si vous êtes trop loin, il y a des places ici, donc sentez-vous libre de vous déplacer, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus devant. Donc c'est dans Luc, au chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir trois choses. Premièrement, Jésus plante le décor. Premier point, il plante le décor. Il nous donne un petit peu le contexte. Il commence avec ces mots. Hein. Il y avait un homme riche. Et ça, c'est un premier argument pour moi qui me fait pencher dans le sens plutôt d'une lecture de ce texte comme une parabole. Si vous lisez les paraboles de Jésus, pas mal de paraboles commencent comme ça. Il y avait quelque chose. Jésus commence comme ça par un personnage un petit peu neutre. Il y avait un homme riche. Un homme très riche, en fait. Hein. Un homme immensément riche, probablement. Il était habillé de pourpre. Il menait une joyeuse et brillante vie. Voilà. Un homme remarquable par sa richesse. Et puis, un contraste saisissant. De l'autre côté, un homme pauvre. Un homme très pauvre, malade, qui est couché là, qui est tellement mal qu'il aimerait juste manger les miettes qui tombent de la table de ce riche. Ça, c'est le deuxième argument, à mon avis, qui nous fait pencher pour l'idée que c'est une parabole. C'est que Jésus avait un ami qui s'appelait bel et bien Lazare, dont il est question dans les évangiles. Mais cet ami n'était pas pauvre à ce point-là. C'était assurément pas un riche, mais c'était pas un pauvre à ce point-là. Donc on peut s'imaginer que c'était probablement un personnage fictif que Jésus invente pour l'occasion. Il faudrait pas mal comprendre le texte. Certains ont vu dans ce texte un texte sur la question de la richesse. Mais je crois pas que c'est le cas. En fait, Jésus est en train de répondre à des pharisiens. Si vous lisez un petit peu les versets qui précèdent, à un moment donné, des pharisiens se moquent de Jésus parce que justement, Jésus explique que ce n'est pas la richesse qui fait la valeur des personnes. Et les pharisiens se moquent d'eux. Et Jésus va leur donner cette parabole où il va leur dire en un mot que l'argent, la richesse, n'a rien à voir avec la vie éternelle. Jésus n'est pas en train de dire non plus que c'est à cause de sa pauvreté que ce pauvre entre dans le séjour des morts auprès d'Abraham. Jésus n'est pas en train de dire ça. Hein. Jésus est en train de dire que c'est pas à cause de ce qu'il a vécu dans sa vie qu'il va vivre auprès d'Abraham, ce riche. Et c'est pas à cause de ce qu'il a vécu dans sa vie que ce pauvre va vivre auprès d'Abraham non plus. Jésus est en train de déconnecter la notion de la richesse et la notion du salut qui pouvait être liée dans la tête de ces pharisiens. Et c'est hyper fort. Parce qu'il y a vraiment une inversion dans l'éternité entre ce que l'un et l'autre peuvent vivre pendant leur vie et ce que l'un et l'autre peuvent vivre pendant l'éternité. Mais on va voir par la suite hein, que Jésus est quand même clair. Hein. Il dit bel et bien que c'est par la foi seule qu'on peut échapper à l'enfer. Éventuellement, on pourrait quand même dire que dans cette parabole, la richesse, même si la richesse ne conditionne pas le salut, la richesse peut être un élément perturbateur. Parce que ce riche qui a mené une joyeuse et brillante vie a été détourné des questions essentielles. Il n'a pas pu penser à Dieu pendant sa vie. Il était tellement pris par tout ce qu'il pouvait vivre qu'il a loupé ce qui était essentiel, ce qui était le plus important. Et il a peur d'ailleurs que ses frères vivent la même chose, qu'ils loupent aussi ce qui est principal. Et puis, dans ce séjour des morts, les personnages interagissent. Alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose de réel? Probablement que Jésus fait interagir ces personnages pour qu'on se rende compte un petit peu de ce qu'il y a dans leur tête. Mais probablement qu'à travers ce grand abîme dont il est question, les personnes qui sont dans ce séjour des morts ne peuvent pas forcément communiquer. Mais là, il leur permet d'interagir dans la parabole pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe dans leur cœur. Et c'est là qu'on vient un petit peu à l'essentiel. Jésus, je crois, dans cette parabole, veut enseigner deux grandes vérités. Il fait parler les personnages pour qu'on se rende compte de ce qui se passe dans leur tête et pour nous enseigner deux grandes vérités. Premièrement, Jésus veut enseigner à ses auditeurs et il veut nous enseigner à nous qu'il n'y a pas de soulagement possible en enfer. C'est impossible. Enfin, il y a cette demande de l'homme riche. Tout ce qu'il veut, ce gars, c'est une goutte d'eau. Juste une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Tellement il est mal. Vous avez vu, hein, les mots sont forts. Hein. Je souffre cruellement dans cette flamme. Les mots sont quand même clairs, ils sont forts. Et puis Abraham doit lui répondre et lui dit « Non, Lazare ne va pas venir pour mettre une goutte d'eau sur ta langue. » Pour deux raisons. Premièrement, Parce qu'en fait, c'est à cause de ce que tu as vécu dans ta vie que tu te trouves là où tu es aujourd'hui. Tu es en train, en fait, de subir les conséquences de la manière dont tu as vécu ta vie. En fait, c'est justice si tu es là où tu es aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est cet abîme. Il y a un problème géographique, un problème physique. Il y a un grand abîme entre nous. Il n'y a pas de communication physique possible entre toi, qui est de ce côté-ci du séjour des morts, et puis Lazare, qui est du côté d'Abraham dans ce séjour des morts. Il n'y a pas de, séjour, de communication possible. En un mot, l'enfer, c'est l'enfer. Alors, ici, on pourrait dire, hein, si vous étudiez un petit peu la théologie, vous saurez peut-être que les personnages sont dans le séjour des morts, ce que les théologiens appellent parfois l'état intermédiaire. On n'est pas encore dans l'enfer éternel, l'étang ardent de feu et de soufre dont il est question dans l'Apocalypse, le lieu où on se trouve suite au jugement, au dernier jugement. On est dans cet endroit qui précède en quelque sorte l'enfer, mais on ne peut pas s'attendre à ce que l'enfer soit mieux. Il sera soit la même chose, soit peut-être éventuellement pire que ce lieu-là. Donc on peut vraiment appliquer ces choses-là et se souvenir que l'enfer, c'est l'enfer. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir. On ne doit pas minimiser cette question de l'enfer. Parfois, dans nos milieux évangéliques, on a tendance à dire que l'enfer, c'est le fait d'être séparé de Dieu. C'est le lieu où on est séparé de Dieu pour l'éternité. Et c'est juste, c'est une vision tout à fait juste de l'enfer. Mais parfois, j'ai peur qu'en disant ça, on minimise un peu la gravité. Être séparé de Dieu pour l'éternité, c'est la chose la plus terrible qui puisse nous arriver. L'enfer, c'est l'enfer. Et la Bible, elle utilise des mots riches et terrifiants. Elle parle d'un étang de feu et de soufre. La Bible, elle parle de la seconde mort, d'un lieu de grincement de dents, d'un lieu où le feu ne s'éteint pas. Pour aller encore plus loin dans l'image, la Bible parle aussi d'un lieu où vit un ver qui ne meurt pas. Elle parle d'un lieu de peine éternelle. Bref, c'est un lieu terrible. L'enfer, c'est l'enfer. Et cet homme riche réalise, je souffre cruellement dans cette flamme. On doit être terrifié par rapport à cette idée de l'enfer. On ne peut pas juste se dire, bon voilà, ça va être pas si terrible, on ne peut pas relativiser. On doit être réellement terrifié quand on pense à cette idée de l'enfer. On va voir un petit peu les applications tout de suite après. Mais il y a une deuxième grande vérité que Jésus veut enseigner par cette parabole. Il veut enseigner aussi qu'il n'y a pas de salut en dehors de la foi. Il n'y a que par la foi qu'on peut éviter ce lieu terrible qu'est l'enfer. Cet homme riche, il a une deuxième stratégie, un deuxième réflexe. Quand il se rend compte que pour lui, il ne peut plus rien faire, il pense à sa famille, il pense aux siens. Et il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il puisse prévenir ses frères, qui probablement avaient une vie un peu similaire à la sienne, prévenir ses frères de la terreur qu'il peut vivre, lui, dans ce lieu-là. Et là, on a de nouveau un troisième argument, pour moi, qui milite en faveur de l'idée que c'est bel et bien une parabole. C'est que Jésus a intentionnellement nommé ce personnage Lazare, parce que, quelque temps plus tôt, Jésus avait ressuscité son ami Lazare. Ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11, si vous voulez lire cette histoire de la résurrection de Lazare. Et en fait, les pharisiens, quand ils voient la résurrection de Lazare, le personnage réel, se tournent pas vers Dieu pour autant. Et Jésus est en train de renforcer son argument. Il fait un lien intentionnel en appelant son personnage fictif Lazare pour dire aux pharisiens, vous voyez, quand Lazare a été ressuscité, vous n'avez pas cru pour autant. Et bien de la même manière, si cet homme-là, cet homme fictif, ressuscitait et sortait du séjour des morts, et il allait parler à ses frères ne se tourneraient pas vers Dieu pour autant. Pourquoi ? Parce que la foi seule peut sauver. Il n'y a rien d'autre. Et j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une personne assez proche de moi, je ne vais pas vous dire qui, mais une personne assez proche de moi qui me confiait un jour qu'elle aimerait croire, mais qu'elle attendait quelque chose de palpable. Elle attendait quelque chose de visible, une espèce de réalité sur laquelle elle puisse se baser pour pouvoir croire en Dieu, pour pouvoir croire en Jésus. Mais elle n'avait pas compris la nature de la foi. Elle pensait que la foi était quelque chose qui venait de l'extérieur, qu'elle avait besoin d'une sorte d'apport extérieur pour déclencher la foi. Mais en réalité, c'est complètement différent. La foi est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose qui commence dans notre cœur. C'est Dieu qui agit dans notre cœur pour faire naître et faire grandir la foi. Il y a une preuve assez forte qui permet d'étayer ça, qui me permet de montrer que ce n'est pas la densité de miracles ou la densité de choses incroyables qu'on aura vécues dans notre vie qui peut susciter la foi. La preuve, c'est qu'il y a deux générations qui ont vécu des miracles extraordinaires dans la Bible. La première, c'est la génération qui a vécu à l'époque de Moïse. Ces gens-là, ils ont vécu des trucs quand même hallucinants. Ils ont vécu les plaies d'Égypte. Ils ont vécu le passage à sec de la mer Rouge. Ils sont arrivés au Sinaï. Et là, c'était vraiment une scène incroyable. Il y avait le tonnerre, le bruit des trompettes, les éclairs, toutes ces choses-là. Tout le monde est terrifié en bas de la montagne. Moïse monte sur la montagne. Il reste quelques jours à peine sur la montagne. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les gens ont fait en bas? Ils ont construit un veau d'or. Et puis, par la suite, le peuple, encore et encore et encore, se rebelle contre Dieu. Pourtant, ils avaient vécu tous ces miracles. Et on se rend compte que ce n'est pas ces miracles extérieurs qui suscitent la foi. C'est une transformation intérieure qui permet de vivre la foi. La deuxième génération qui a vécu énormément de miracles, c'est la génération à l'époque de Jésus. Ces gens-là ont vu Jésus ressusciter des morts, guérir des malades, libérer des démoniaques. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, calmer la tempête, etc., 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 multiplier le pain. Et pourtant, c'est cette génération-là qui a décidé de crucifier le Messie. Vous voyez que ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les choses extérieures qui suscitent la foi. La foi est quelque chose qui se passe dans notre cœur. Qu'est-ce qui se passe? La foi, c'est le fait de placer notre confiance en Jésus seul. Jésus, il est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu. Nous qui étions ennemis de Dieu, nous qui étions séparés de Dieu, Jésus est venu et il est mort sur la croix pour payer à notre place la rançon que méritaient nos péchés. Il a payé ce prix à notre place et il nous a permis d'être réconciliés avec Dieu. C'est le fait de croire ça, c'est le fait de placer notre confiance en Jésus-Christ, c'est le fait de comprendre l'évangile. Ça se passe dans notre cœur, C'est l'action de Dieu dans nos cœurs, dans mon cœur, qui fait naître et qui maintient la foi jour après jour. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? On l'a vu, L'enfer, c'est l'enfer. Et seule la foi nous permet de l'éviter. On a bien compris ces vérités. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Je vous propose, pour terminer, trois applications. Première application. Si tu ne crois pas en Jésus, tu dois trembler. Et je ne veux pas être cliché, Je ne veux pas faire de la manipulation non plus. Mais Jésus est clair. Cet homme riche, il souffre cruellement dans une flamme. Et il n'y a pas de question plus urgente. Il n'y a pas de sujet de réflexion plus urgent pour toi que ton éternité, que ta vie dans l'au-delà. Tu dois te poser la question, urgemment, maintenant, aujourd'hui. La Bible ne nous dit pas que ça va être pas si mal. La Bible nous dit que l'enfer, ce sera l'enfer. Et on doit être clair par rapport à ça. Deuxième application, si tu crois déjà, alors dans ce cas, si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, si tu vis pardonné de tes péchés, alors dans ce cas, cette parabole doit susciter deux choses, je crois. Premièrement, une profonde reconnaissance. Je trouve de se rendre compte de la terreur que suscite l'enfer, ça met en relief l'aspect gigantesque de la grâce. Voilà de quoi Jésus nous libère. Voilà de quoi il nous sauve. Il ne nous sauve pas d'une petite punition, hein. Il nous sauve de cette flamme éternelle où cet homme riche souffre cruellement. Il nous sauve de cette séparation éternelle d'avec Dieu. Première chose, si tu crois, hein, une profonde reconnaissance. Et deuxième chose, si tu crois aussi, eh ben je crois que c'est un moteur puissant pour annoncer l'évangile. Est-ce que tu réalises? Et je me mets vraiment là en premier aussi, hein, est-ce que je réalise? Est-ce que nous réalisons que nos collègues, que nos voisins, que peut-être des membres de nos familles sont destinés à cela? Ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous faire réagir. C'est urgent d'annoncer l'évangile, parce que c'est le seul moyen qui nous permettra d'être sauvés, qui permettra aux hommes et aux femmes d'être sauvés. C'était la deuxième application, la reconnaissance et l'annonce de l'évangile. Et puis troisièmement, troisième application, je crois que cette parabole, elle nous dit, mais investissons aussi au bon endroit. Cet homme riche, il était riche, mais il avait investi au mauvais endroit. Et par contraste, cet homme pauvre, il était peut-être pauvre, d'une manière inimaginable, mais pourtant, il avait investi au bon endroit. Ça doit nous faire réfléchir, nous aussi. Investissons-nous au bon endroit? Est-ce que mon argent, mon temps, mon énergie et toutes mes pensées, ma manière de vivre me permet d'investir au bon endroit? Ça nous aide à faire le tri, hein. L'éternité, c'est long. C'est pas très judicieux, en fait, d'investir pour une richesse matérielle dans cette vie. Et cette parabole doit nous faire réfléchir à ma manière d'investir. Je conclue. Peut-être vous êtes choqués par cette prédication. Peut-être que ça vous semble dur. Peut-être que ça vous semble pas très acceptable de parler de l'enfer comme ça. Mais en fait, c'est ce que Jésus fait dans cette parabole. Et en fait, on ne veut pas s'excuser. Moi, je ne veux pas m'excuser. Et si vous parlez à d'autres personnes de l'enfer de cette manière-là, on ne doit pas s'en excuser. C'est Jésus qui nous prévient. C'est Jésus qui nous informe de ce lieu terrible qui nous attend. On ne doit pas s'en excuser, mais en même temps, on doit montrer qu'il y a de l'espoir. Pour ceux et celles qui se confient en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. On peut vivre comme Lazare. Si on investit au bon endroit, si on place notre foi en Jésus-Christ, on peut avoir cette espérance de passer l'éternité dans la présence de Dieu. D'être avec Abraham, là, dans ce séjour des morts, avec Abraham, pour l'éternité. C'est tellement bienfaisant. La terreur de l'enfer, ça ne doit pas être juste la terreur de l'enfer. Elle doit nous faire apprécier le salut dont nous sommes les bénéficiaires en Jésus-Christ. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier pour cette parabole. On veut te remercier parce qu'elle nous aide à réaliser la grandeur du salut. En réalisant ce à quoi nous étions destinés, nous réalisons à quel point il était primordial, à quel point il était nécessaire que tu agisses pour nous. Merci, on est rempli de reconnaissance. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous transformes. Merci parce que tu as accompli cette œuvre en nous. Merci parce que tu as fait naître et parce que tu fais grandir la foi en nous. Seigneur, je te prie qu'on puisse être clair par rapport à ces questions, par rapport à ce qui attend les hommes et les femmes qui ne placent pas leur confiance en Jésus dans cette vie. Seigneur, transforme encore nos cœurs aujourd'hui. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.